Du coup, bienvenue ce soir, on va parler des chevaliers de Baphomet sur le cast rétro. J'accueille pour cela Yann et Rémi qui vont nous en parler. Comment ça va les gars ?
Ça va nickel.
Ça va super, merci.
Et on est là avec toi et ça c'est très cool.
Exactement, exactement. Et moi ça me fait extrêmement plaisir de parler de ce jeu. Voilà, j'aurai des anecdotes parce qu'il a quand même marqué pas mal mon adolescence, on va dire. Mon enfance et mon adolescence. En 96, j'avais déjà 14 ans quand même. Du coup, ce jeu est en effet sorti en 1996 sur PC. Il est publié par Virgin Interactive, développé par Revolution Software. C'est un jeu qui est sorti également sur PlayStation en même temps. Il a été édité un petit peu plus tard sur Game Boy Advance en 2002. Il y a également eu des versions remaster avec un rename, on va dire, The Director's Cut, qui sort sur Wii, Nintendo DS. Et il sera ensuite porté en 2010 sur iPhone, iPod Touch, iPad, et ainsi que PC via Steam. Voilà, pour le petit pédigré de Chevalier de Baphomet. Pour la première version, il aura le droit à 4 suites. On en parlera certainement brièvement, et on fera certainement des épisodes dédiés, parce que chaque épisode est très intéressant de Baphomet. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'autres versions, peut-être des versions un peu obscures, ou pas nécessairement.
Non, je crois que tu as tout dit, hein.
Ouais, je pense que t'as tout dit. Après, chaque version a ses particularités.
Ouais.
Qui sont plus ou moins acceptables, mais...
On est d'accord. Hein.
Voilà, on parlera pas de la version GBA qui n'a aucune voix à l'intérieur.
Ouais, c'est vraiment le... Je pense que c'est... Alors, on parlera de la Director's Cut également, de ce qu'elle apporte, etc., qu'on parlera vraiment du jeu. Après, les avis seront on n'aime pas. Mais la Game Boy Advance, je pense que personne n'a aimé ça, quoi. C'était vraiment pour dire et surfer sur le nom. D'ailleurs, ça a été développé par BAM Entertainment. Ça n'a pas été développé par Revolution Software. Et c'est vraiment juste une adaptation, en gros, pour surfer sur le nom, quoi, clairement.
Oui, clairement. Et pour l'avoir déjà testé en ému sur GBA, c'est très passable.
Ouais.
Le jeu est beaucoup moins beau. Et puis, sans les voix, il manque clairement quelque chose de l'âme du jeu, quoi.
On est d'accord, on en parlera des doublages en plus qui sont vraiment, je pense, marquants pour ce jeu. Du coup, est-ce que vous vous souvenez, vous, la première fois que vous avez pu y jouer, justement, le premier contact que vous avez pu avoir avec Baphomet ?
Oh oui, moi je m'en souviens très bien. Pour le coup, moi j'ai découvert le jeu via sa suite. En l'occurrence, moi j'ai pas commencé par le premier, j'ai commencé par le 2. Sur PS1, donc voilà, tant qu'à faire. Je l'avais acheté dans une boutique, je sais pas en quelle année. Bon, il y a encore le prix dessus, il était en euros, donc j'imagine que ça devait être 2001.
Ok.
2001 ou 2002. Je l'ai encore, et je l'ai pris un peu à la volée dans le magasin. Parce que j'ai encore ma version d'époque, vous allez tous voir pourquoi. Un vendeur me l'a conseillé, ça avait l'air bien, je l'ai acheté, donc ça c'est ma version d'époque.
Ok.
Il y a le CD, il y a la notice, c'est tout. Démerde-toi. Et je l'ai vraiment adoré, et par la suite, j'ai tout fait pour trouver le premier. J'ai été dans tous les magasins de ma ville pour essayer de le trouver, et il y avait des vendeurs à qui je m'entendais très bien. Je leur avais laissé mon numéro, si vous le rentrez, vous m'appelez. Et donc, je sais pas, moi, 2 ans plus tard, peut-être, je l'ai rentré sur PS1 aussi.
Okay.
À l'époque, j'avais un vieux PC de l'enfer, et clairement, je l'aurais jamais fait tourner sur mon PC. Donc,
ouais.
Donc moi, j'ai commencé par les versions PS1, qui sont très bien, ma foi.
Oui,
il y a un peu de chargement.
Ouais,
on va pas se mentir.
Mais sur PC aussi, hein, de toute façon, c'est le début des CD et justement du temps de chargement pour les cinématiques. Donc voilà, il fallait s'y faire. Alors après, le PC avait la chance d'avoir des lecteurs avec des vitesses qui allaient un petit peu plus vite que la PlayStation 1. Et donc voilà, ça favorisait les temps de chargement. Toi, Yann, est-ce que tu te souviens le premier contact que tu as pu avoir avec ce jeu ?
Ouais, très bien, je m'en rappelle. Parce que c'est pas le premier point and click auquel j'ai joué, puisque j'ai joué avant, hein, me semble, si je dis pas de bêtises, à Indiana Jones, je sais plus lequel, je crois que c'était la dernière croisade. Donc j'avais déjà joué à des point and click avant, mais c'est le premier point and click que j'ai possédé.
Okay.
Et je me rappelle très bien d'avoir installé sur mon Pentium 133 avec 1,2 giga de disque dur, et qu'il fallait installer, il y avait 400-500 mégas, donc j'avais tout désinstallé pour pouvoir l'installer.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était un gros jeu à l'époque. Pour l'époque, il venait de sortir, et en fait, c'était un peu comme si on installait un jeu de 30 gigas à l'époque, quoi.
Ouais,
enfin, maintenant, c'est ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça avait été assez incroyable. Et je me rappelle que la première installation du jeu, ça m'avait mis des plombes. Je sais plus combien, au moins une heure, je dirais, sans mentir.
Ouais, je pense aussi, parce que moi j'avais la même machine et ouais, j'ai vraiment souvenir de ça.
Et est-ce que tu te souviens qu'à l'installation, il y avait un casse-brique te faire patienter.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Tellement c'était long. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu. Mais ça m'a pas du tout dégoûté, parce que quand le jeu il a commencé après, j'ai adoré. Mais c'est vrai que je me rappellerai toute ma vie de ce temps d'attente interminable, parce que j'avais l'habitude avec la NES ou la Super NES, tu mets le jeu, tu joues. Et là, c'est vrai que même les jeux de PC que j'avais, c'était jamais un temps de chargement comme ça.
Ouais. Ah
bah là, donc l'attente était encore pire, quoi. Et voilà, et donc après, oui, après, évidemment, après j'ai d'autres souvenirs du jeu, mais vraiment l'installation, c'était quelque chose qui m'avait marqué.
Ouais, mais moi, clairement, c'est la même chose. J'avais aussi un Pentium 133, donc j'ai connu la même aventure que toi. Et en plus, c'était le PC. En fait, mon père s'en servait aussi pour le boulot, quoi. En fait, c'est grâce à ça que j'avais un PC chez moi. Je me souviens lui avoir désinstallé plein de trucs qu'il avait besoin. Ouais, c'était voilà, c'est ma première anecdote va être là-dessus, parce que ouais, j'avais pris une bonne branlée parce que je lui avais désactivé des logiciels dont il avait besoin, dont la suite Lotus, je crois que c'était ça à l'époque.
Ça existait déjà.
Ouais, ouais, c'est ça, qui était le pendant de Microsoft Office à l'époque. Et ouais, vraiment une superbe expérience. J'ai encore la Big Box chez moi, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et moi qui m'a vraiment lancé dans le point and click. Je pense que j'avais découvert Monkey Island, mais sur Atari ou quelque chose comme ça, mais chez le frère d'un pote, tu vois, qui était plus âgé que moi. Et là, c'est pareil, c'était vraiment mon premier point and click que j'avais, quoi. Donc,
comme moi avec Indiana Jones, en fait.
Pareil, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, très belle expérience. Et justement, la boîte, tout ça, le marketing qu'il y avait autour, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de tout ça? Alors la boîte, je vois que vous cédez tous les deux, donc, et moi aussi, donc ça va être plus simple d'en parler. Mais est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça?
Oui, bah, je trouve que la boîte, du 1 comme du 2, ne représente pas vraiment le jeu. C'était un choix assez étonnant, parce que en fait, pour l'époque, il faut aussi se dire que quand tu achetais un jeu, que ça soit un jeu de PC ou console, tu achetais en fonction de la boîte à l'époque.
Ouais.
Et ça faisait partie de ces jeux où, avec le recul, bon, moi je suis moyen fan, mais bon, après ça se discute, où en fait ta jaquette est complètement différente de ce que tu pouvais trouver dans le jeu, y compris le titre, puisque Chevalier de Baphomet, c'est pas vraiment quelque chose dont on parle beaucoup dans le jeu, en
non.
fait. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle Broken Sword, et oui, on n'en parle pas forcément non plus. Donc, c'est pareil, c'était des choix qui étaient intéressants à l'époque, puisque c'était un marketing qui était différent d'une autre, puisqu'on n'avait pas accès à, enfin, on avait accès à pas grand-chose. Voilà, moi, ça m'avait marqué le fait que la boîte ne ressemblait pas du tout au jeu.
Ouais.
Et qu'on essayait de nous vendre quelque chose de différent, alors que le jeu était très bien.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Bah, Moi, en l'occurrence, j'ai découvert le jeu plus tard, donc là-dessus, je peux pas vous parler de l'expérience à sa sortie du jeu dans les rayons, mais vu comment moi j'ai choisi le 2 en rayon, bah, je vous avoue que moi, le visuel m'a intrigué, en fait. Donc ça joue aussi, en fait, tu sais pas trop ce que ça va être. Moi, j'aimais bien des point and click, j'en avais déjà fait à l'époque, et autant c'était un type de jeu sur PS1, il y en a eu quelques-uns, ils sont pas tous bien, mais il y en a eu quelques-uns, et moi, j'ai passé un très bon moment sur certains, et j'avoue que les Chevaliers de Baphomet, c'est le top là-dessus. Hein. Et les boîtes, moi, je trouve que justement, elles ont vraiment une âme. Tu vois, tu sens bien que ça a été travaillé, c'est stylisé, mais c'est pas des screens du jeu.
Oui.
Et ce qui est bien, c'est que les boîtes n'ont pas été refaites. Par exemple, celle du 4, bon, je reste sur la saga, mais celle du 4 a été restylisée une deuxième fois. Et il y a deux boîtes différentes du 4. La première, c'est stylisée comme les deux premières. Et par contre, après, elle est ressortie avec les personnages en 3D dessus et tout. Et celle-là est dégueulasse. Hein.
Ouais. Oui, parce que, comme tu dis, il y avait vraiment une âme et une vraie direction artistique sur la boîte, quoi. Il y avait même des indices, on voit sur le côté Salah Al-Din, qui va être un indice dans le jeu. Il y avait pas mal de petites choses. Le seul truc qui est en effet assez bizarre, c'est ce titre. Et ça, je suis d'accord, c'est que ce titre ne veut rien dire, en vrai, et n'a rien à voir quasiment avec le jeu, parce qu'on va parler plus tard du lore, mais on parle quasiment exclusivement des chevaliers, des templiers. Et le jeu s'appelle Chevalier de Baphomet, qui n'a pas forcément de rapport avec le jeu en soi, quoi.
Et ça, ouais, c'est... et ce qui est Ce qui est très drôle pour ça, c'est qu'en fonction des pays, la traduction est totalement différente de Steam.
Ouais.
Je sais pas si vous avez regardé le nom dans les autres pays.
Si.
Moi, je l'ai regardé.
Ouais, parce que
et tu sens bien que c'est... En fait, ça doit être historique. Est-ce que le Baphomet, ça parle? Est-ce que une épée brisée, est-ce que ça parle? Est-ce que les Templiers, ça parle plus? Et je pense qu'il y a eu une étude marketing là-dessus pour savoir quel mot t'allais utiliser pour le titre du jeu. C'est pas possible. Parce
ouais.
qu'en l'occurrence, Baphomet a une importance dans le jeu parce que c'est une idole qu'aurait
oui.
adoré les Templiers. Et en l'occurrence, vu qu'ils ont été brûlés en France, pour le coup, Baphomet, on en parle. Vu qu'il y avait pas mal de Templiers allemands aussi, en Allemagne, c'est pareil, c'est quelque chose Baphomet, il me semble.
Oui, c'est,
contre, dans
c'est
le reste
la malédiction
du monde,
de Baphomet en Allemagne.
Ouais, c'est ça. Et par contre, dans le reste du monde, c'est non. Bah, parce que des Templiers, en fait, il n'y aurait pas tant que ça en dehors de ces pays-là, je pense.
Oui, ah, oui.
Des,
c'est certainement qu'il y a un rapport historique, en fait, qui fait que ce jeu a eu plusieurs noms, quoi, clairement.
Ouais, bah, c'est très bizarre, parce qu'en l'occurrence, c'est sorti de nulle part, alors qu'en effet, Baphomet n'a pas tant d'importance que ça dans le scénario.
Ouais.
Les Templiers en ont beaucoup plus.
Clairement.
et c'est vrai que c'est un choix particulier de ne pas avoir choisi ce mot-là dans le titre, alors que je crois que c'est la version espagnole qui a quelque chose Templier. Enfin voilà, ça aurait été beaucoup plus logique à l'époque et ça aurait été beaucoup plus parlant, mais ils ont joué la carte de la petite référence peut-être un peu plus obscure, mais qu'elle a éveillé peut-être ton questionnement.
Oui, clairement. Alors, pour être transparent avec vous, tous les pays anglophones, sauf les États-Unis, ça s'appelait Broken Sword, The Shadow of the Templar, donc l'épée brisée, l'ombre des Templiers.
Ouais, Templiers.
Aux États-Unis, c'est Circle of Blood, donc le cercle de sang. Donc, qui a rien à voir ni avec les Templiers, ni avec Baphomet. En Allemagne, ça s'appelle Baphomet's Flush, qui se traduit par la malédiction de Baphomet. En Italie, c'est Il Segreto dei Templari. Donc, je suis désolé pour l'accent, hein, je parle pas du tout italien. Le secret des Templiers, donc ça s'appelle. Et en Espagne, La Leyenda de los Templarios, donc la légende des Templiers. Voilà. Donc souvent on parle des Templiers, mais il y a des pays où on parle des PKC, il y a des pays comme aux États-Unis où ça s'appelle le cercle de sang, et hormis le sceau peut-être qu'on peut voir sur la boîte qui peut faire rappel à une tache de sang, il n'y a pas grand-chose par rapport à ça, quoi.
Mais c'est ça, mais là en l'occurrence je pense que c'est du fait des États-Unis, il n'y a ni la référence ni Templier ni Baphomet, donc...
Oui.
Enfin, je pense que culturellement c'est mort, tu ne peux pas utiliser ça, donc soit tu gardes Broken Sword, soit tu fais autre chose, quoi.
Exactement.
Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée quand justement j'ai vu les titres dans les autres pays. J'étais dit, tiens, c'est vraiment étonnant. Déjà que le Broken Sword et Chevalier de Baphomet, c'est vrai que c'était étonnant.
Ouais.
Surtout que nous, on n'a pas de sous-titre sur le premier. Alors que la version originale, hein, un sous-titre, c'est The Shadow of the Templar. Nous, on n'a même pas un sous-titre.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a juste un titre de jeu.
Ouais.
Et on n'a pas d'explication vraiment avec.
Ouais.
Et du coup, sur cette boîte, Yann, tu te rappelles, est-ce que. C'est vraiment la boîte qui t'a fait acheter ou pas, toi ? T'as souvenir de ça ?
Ça, je me souviens pas.
Ok.
Je me souviens pas du tout. Je sais que il y avait un effet de mode aussi, quand même, clairement.
Ouais.
Je pense.
Ils en parlaient dans la presse. Hein. Moi, je me souviens en avoir vu parler.
Ouais.
Quoi ? Ouais. Vu du coup dans la presse.
C'était un peu le jeu que. En fait, c'était une. Enfin, comment expliquer ? C'était une époque où t'avais des jeux un peu de point and click qui sortait, où c'était vraiment la mode. Je me rappelle quand Maniac Mansion il était sorti sur NES, c'était vraiment le jeu à avoir.
Ouais.
Alors que maintenant, ça paraîtrait un peu bizarre qu'un point and click comme ça soit le jeu un peu hype, mais c'était le cas. Et je me rappelle que celui-là aussi, il avait une hype, un jeu, c'était un jeu qu'il fallait posséder. Moi, j'aimais bien les point and click, mais c'était pas le point and click qui était super à la mode.
Oui.
Et c'était un jeu qui était vachement marketé. Donc, je dirais que je me suis fait avoir au niveau du marketing, en fait. Et je pense que ça vient tout simplement de là. Et puis aussi, je m'en rappelle qu'à la récréation, on en parlait.
Ouais.
Et ça aussi, ça joue. Faut jouer au même jeu que les copains.
Ah ouais, clairement.
Déjà à l'époque, c'était ça.
Mais moi, j'ai souvenir, on se réunissait même chez moi parce que j'avais un PC et que mes potes n'en avaient pas et qu'ils voulaient jouer au jeu et on faisait le jeu ensemble, quoi. Vraiment, et c'était assez fou pour l'époque. Il y a eu des jeux comme ça, il y a eu les Football Manager aussi à l'époque, où
bah
c'était
oui.
le cas.
Championship Manager.
Ouais, Championship Manager et après Football Manager. Et pareil, quoi, tu vois, les autres n'avaient pas de PC soit suffisamment costaud parce que beaucoup étaient encore sur les 386 ou 486 et le Pentium 133 ou Pentium, je crois, le premier doit être 75, 100, 133 permettait ça. Et moi, j'avais la chance d'avoir un 133. Et tant qu'ils n'ont pas eu de PC, bah, ils sont venus chez moi pour squatter ce type de jeu. Et ça, c'était vraiment cool d'eux. Et j'ai vraiment souvenir de ça, d'avoir joué à plusieurs et d'avoir du coup résolu des énigmes à plusieurs. Parce que des fois, c'était compliqué, surtout à l'époque. Quoi.
Ouais, il y en a quelques-unes, ouais.
Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, bah, on va en venir au lore du jeu, les personnages, les énigmes, justement. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce jeu concernant ces personnages et ces énigmes ?
Bah, si tu veux, pour les énigmes, il y a une énigme qui est devenue légendaire dans le monde du point and click.
Oh, oui, la chèvre.
C'est l'énigme de la chèvre. Ça, c'est quand même un truc.
Clairement.
Ça, c'est un truc entre développeurs de point and click, c'est vraiment il y a plusieurs, on va dire, clichés ou choses à faire ou à pas faire. Et l'énigme de la chèvre était de chevet de Baphomet, une des plus connues. Et des choses, je dirais, pas à ne pas faire, mais des exemples un peu complexes des énigmes, on va dire, un peu trop compliquées qui rendent fous les gens.
Ouais.
Et donc, celle-là, clairement, c'est un truc qu'en tant que développeur de point and click, c'est des sujets de discussion que j'ai eu avec d'autres personnes qui font des point and click. C'est un acquis. Tu sais, tout le monde est d'accord pour dire que l'énigme de la chef de Broken Sword, c'est un truc que tout le monde connaît. Tu vois, c'est un truc où, de base, où tu vas parler avec un gars et tu vas te dire, ouais, moi, cette énigme, moi, je la trouve un peu compliquée. Bon, pas autant que celle de la chèvre, mais tu vois, c'est une sorte de niveau de mesure de la difficulté de...
Et l'échelle de la chèvre.
Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et quelle que soit la nationalité, hein, c'est un truc qui est assez... Voilà, c'est une référence.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment souvenir aussi de ça. Et en plus, à l'époque, il faut aussi se remettre dans le contexte. Hein. C'était beaucoup plus dur d'avoir accès à des solus, à des choses comme ça. Donc, quand t'étais bloqué... T'étais bloqué. ça pouvait prendre un bon moment avant de pouvoir trouver. Alors, j'ai souvenir d'avoir été sur des forums quand même à l'époque. J'avais un modem 33K. J'avais même pas un 56K, j'avais un 33K. Et c'était vraiment le tout début des forums, des choses comme ça. Et je me souviens d'avoir été sur des forums pour... des fois demander, je suis bloqué à tel niveau, et on arrivait à se dépanner comme ça. Mais c'était vraiment le tout début de l'Internet. Hein. Je pense que, encore une fois, j'avais la chance d'avoir un père qui était ingénieur et du coup avait Internet et un ordinateur à la maison. Ça a été ultra compliqué. Et le fait de jouer à plusieurs, par contre, m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des fois où moi, j'étais bloqué, d'autres allaient avoir la soluce, et ainsi de suite. Et j'ai vraiment souvenir de ça, qu'on a débloqué ce jeu au fur et à mesure, et notamment en y jouant à plusieurs, parce qu'il y a quand même des énigmes qui étaient vraiment tirées par les cheveux, quoi. Je sais pas, toi, Rémi, alors toi, tu l'as connu plus tard, donc je sais pas comment tu... T'avais déjà fait le 2.
Ouais, j'avais déjà fait le 2, donc pour le coup, il y a beaucoup de choses du premier sur lesquelles j'ai pas trop bloqué. Alors que je sais qu'il y a certains trucs qui étaient censés être très compliqués à l'époque, mais d'avoir déjà fait le 2, vu qu'il y a des mécaniques qui reviennent ou qui se ressemblent, voilà, c'est aussi le concept, et puis il y a l'ambiance qui joue, donc t'étais déjà dedans, tu comprends à peu près où le jeu veut t'emmener, ce genre de choses. Donc, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas trop galéré. La chèvre, par contre, c'était une catastrophe. Vraiment, c'est le truc. Bon, pour tous ceux qui ont jamais fait l'énigme de la chèvre, je suis désolé pour vous, vous allez pas comprendre pourquoi c'est aussi. C'est une référence à ce point-là, mais en gros, c'est pas une énigme de pure réflexion, c'est une énigme de timing. Et c'est la seule du jeu, en fait. Moi, je sais que la fois où je l'ai passé, la première fois, je l'ai passé, je sais pas comment.
Mais alors, moi, ce qui est étonnant.
Il y a une autre énigme de timing. Enfin, désolé, mais c'est pas. Enfin, c'est un détail, mais.
Vas-y.
Oui. Quand tu dois sauter,
je me rappelle très bien. Face à Cannes, oui.
Exactement.
J'y ai pensé en me disant.
Ouais, parce que celle-là, j'avais galéré.
Mais elle est plus permissive en termes de temps.
Ouais.
T'as plus de temps pour le faire, alors que la chèvre, vraiment, ça se joue
sur quelques
secondes.
Je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'était bizarre, enfin ça... mécanisme du jeu où t'as assez peu de... t'as beaucoup de combiner des objets en... et tu as raison, il y a beaucoup de choses où alors on utilise des objets sur d'autres objets, on combine, on essaie de parler avec la bonne personne et de lui donner le bon objet, et d'un coup tu te retrouves avec deux énigmes, dont surtout la chef qui a du timing, et ça n'a plus rien à voir avec le reste du jeu aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi, tu as raison.
Alors du coup, juste pour rappeler un petit peu les personnages, en fait on va incarner George Stobart, qui est un touriste américain et qui est assis là dans un bar et il voit une explosion.
Café de Paris.
Voilà, c'est ça, au Café de Paris. qui subit une explosion et il voit un clown partir. Il va très vite faire connaissance de Nicole Collard, qu'on va appeler Nico régulièrement, mais elle s'appelle comme Nicole. Hein. Voilà, parce que pour beaucoup de gens, c'est Nico, mais son vrai prénom est Nicole, et qui est une journaliste, elle, et qui va du coup l'accompagner dans cette aventure. Alors, on peut parler de la Director's Cut, parce que du coup, la Director's Cut débute avec Nicole.
Et avec Nico.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une particularité, et je pense que c'est un parti pris qui était plutôt intéressant. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu quand vous avez fait la Director's Cut. Est-ce que du coup, ça vous a vraiment chamboulé? Est-ce que vous avez trouvé cet intérêt intéressant ou pas forcément de votre côté?
Bah moi, la Director's Cut, c'est une version que j'ai vraiment attendue. Bah pour le coup, j'ai dû l'acheter jour 1 sur Wii à l'époque. C'est une version vraiment que j'attendais, parce que j'avais juste hâte de me remettre dans le chevet de Baphomet, avoir un peu plus de lore, revivre ces aventures-là. Ouais, comme le disait Emule, donc ça rajoute certaines scènes, notamment le début où on joue Nicole à Paris avant que George arrive et qu'il y ait l'attentat avec le clown. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Ça rajoute énormément de lore. Le seul truc, c'est que vraiment, il y a une direction artistique qui est assez différente du jeu d'origine. Les dessins sont pas exactement les mêmes. C'est particulier. Et le son n'a rien à voir aussi. Et ça, c'est vraiment étonnant. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait tous les deux. Je pense que oui. Le son, en fait, c'est les mêmes doubleurs, mais le son des voix est net. Il est clair. Il est limpide sur les morceaux Director's Cut. Et dès que tu retournes sur le jeu de base, bah, t'as le grain de l'époque, en fait.
Ouais, avec le sweet.
Exactement.
Ouais.
Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre un filtre pour recréer ce petit bruit 96 là qui faisait partie de l'ambiance. En fait. Ça fait vraiment bizarre. Des fois, t'as des enchaînements de voix et t'as le filtre. Enfin, t'as le bruit de l'époque. Tu l'as plus. Tu l'as à nouveau. C'est très déstabilisant, je trouve.
C'est vrai. Et même sur PC, hein, moi je l'ai fait sur PC et c'est exactement la même chose. Alors que le jeu est sorti bien plus tard, ils auraient pu encore retravailler parce que c'est des choses qui leur ont été dites quand il a été porté sur Wii, etc. Et bah, sur la version PC, c'est pareil, t'as cette différence de voix qui est assez
Je l'avais assez perturbante. Sur PC et j'avais vu ça, ouais, parce que j'espérais justement qu'ils les retravaillaient et bah pas vraiment. Et...
Non.
J'étais un peu déçu pour ça.
C'est vrai. Par contre, il y a toute l'aventure avec Nico que je trouve intéressante parce que c'est vraiment un personnage principal quand même dans le 1, hein, même si on la joue pas, elle a une forte importance. Et là, de pouvoir la jouer, de pouvoir connaître certaines choses qui sont ultra intéressantes et qui apportent vraiment un plus et dans la compréhension du jeu, notamment, je trouve ça quand même super intéressant. Par contre, les énigmes, alors je ne sais pas si c'est moi, parce que les énigmes du premier opus, bah, je les avais déjà faites, donc je ne les vois pas trouver si difficiles que ça. Alors que les énigmes avec Nico, il y a des moments, j'ai vraiment galéré. Là, il y a un moment où il faut aller dans un genre de sous-sol et où il y a tout un genre de puzzle game un petit peu à résoudre. Et j'ai assez galéré là-dessus. Et ça, je pense que ça fait partie de mes énigmes les plus compliquées de Baphomet avec la chèvre à l'époque. Parce que voilà, une fois que tu le sais, c'est facile. Mais quand tu le sais pas, tu peux y passer des heures. Quoi. Donc, et pour toi, Yann, je sais pas, la Director's Cut, pareil, si tu as un avis là-dessus.
Ouais, j'aime pas trop. Je suis désolé de casser un peu le truc. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que, déjà, alors, je suis d'accord. Je trouve que c'est cool d'avoir Nico, d'avoir un peu plus de lore sur Nico. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est pas très bien fait, en fait. Je trouve que, en fait, ce que j'adore dans les chevets de Baphomet, c'est que, en fait, tu démarres le jeu. Il y a une explosion, t'en as parlé dans le café. Si tu veux, tu as une intro où on t'explique que voilà, il y a une bombe et toi, tu veux essayer de comprendre pourquoi il y a une bombe, pourquoi tu as failli mourir. Pas parce que tu t'en rends compte que George, il se rend compte qu'il n'est pas. C'est juste un touriste, il n'y a personne qui lui veut du mal. Mais il veut aller comprendre pourquoi le flic qu'il a interviewé est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un clown. Tu vois, c'est tout ça, je trouvais que c'était vachement bien. Et en fait, quand tu joues au Director's Cut, tu commences, t'es Nico qui va interviewer le gars riche, là, et finalement, il se fait tuer. Mais en fait, ça c'est un peu mou. Après, tu te retrouves à aller dans les égouts et tout. Je trouve que c'est...
En fait, c'est un prétexte qu'ils ont trouvé, je pense, pour... Du coup, pouvoir démarrer avec Nico, il fallait qu'il trouve aussi un prétexte.
Ouais, mais c'est dommage, tu perds un truc. Pour moi, le début du Chevet de Baphomet, c'est vraiment un des meilleurs débuts de point and click. Il y en a quelques-uns qui sont très bien, comme Day of the Tentacle, où tu commences, t'es direct dans l'action, tu attaques, tu sais ce que tu veux faire. Mm. Et je trouve que là, tu enlèves un truc qui est vachement bien et tu le remplaces par quelque chose qui n'était pas vraiment nécessaire, puisque l'interview, au final, tu peux la mettre un peu après.
Oui,
Quand
ah bah largement, surtout que je
Nico,
mets
il
ça
sort.
avec la première version du jeu, donc il n'y avait pas de souci.
Oui, mais tu le mets après quand genre il sort des égouts. Et en fait, voilà, il y a des choix qui ont été faits que je suis pas trop fan. Mais après, je trouve que l'idée de rajouter du Lord Nico était une chouette idée. Je trouve pas que les puzzles étaient trop compliqués. Je trouvais que ça allait bien. Globalement, c'était pas mal, mais c'est plutôt au niveau narratif que ça me pose problème en fait. Et ça m'a un peu, en fait, ça m'a un peu gâché l'expérience parce que je savais ce qui allait se passer après. Et je me suis dit, on est en train de perdre notre temps pour des choses qui finalement sont assez futiles. Et c'est ça qui est dommage.
Ouais.
Mais voilà, je trouvais que c'était pas nécessaire. J'aurais aimé d'autres histoires avec Nico.
Ouais, non, mais je peux le comprendre. Je peux
Là,
comprendre.
je suis complètement d'accord avec ça, parce que normalement le jeu commence sur les chapeaux de roue, alors que là, je suis assez d'accord que le début est très mou dans la Director's Cut,
Ouais.
et ça, c'est vraiment dommage.
Et puis il y a
Il
même
y a...
le générique et tout qui apparaît en fait dans la première version. On voit cette explosion, il y a le ça nous crée un générique et ensuite George Stobart se lève et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment un truc assez fou. Et justement, on va parler vraiment du jeu, de la DA, des choix qui ont été faits. Ça commence direct avec cette voix de George Stobart qui est vraiment très particulière et on sent tout de suite que la qualité du doublage est vraiment exceptionnel. Et il y a ce côté accent qui est forcé, mais qui va faire partie de tout ça, en fait. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, à l'époque, mais moi, ça m'a énormément marqué. Aujourd'hui, dès que j'entends cette voix, je sais que c'est la voix de George Stobart, quoi.
Oui, non, mais carrément.
On est tous d'accord là-dessus, je pense que tu peux pas. C'est pour ça que pour moi, les voix sont hyper importantes dans ce jeu.
Ouais.
Et pour le coup, j'ai déjà fait le jeu aussi en version anglaise avec les voix en anglais. Je ne sais
Aussi,
pas si vous l'avez, toi aussi.
ouais, moi
Et
aussi.
le jeu est très intéressant aussi parce que pour le coup, au lieu que ce soit les Américains qui ont un accent de ouf, bah, c'est les Français qui ont un accent de fou furieux. Et c'est très, très intéressant aussi de voir ça, en fait, le parallèle, en fait.
La VO française est meilleure, je trouve. Mais après, bon, ça, je trouve personnel. Le problème de la VO en anglais, c'est que c'est très compliqué pour un Français d'y jouer. Parce que, par exemple, Nico, elle a fait zéro effort sur l'anglais.
Oui.
Elle te parle I am English, I speak very well. Elle parle comme ça tout. Même, c'est même pire que ça. Tu vois? Et c'est insupportable parce qu'en tant que Français, tu écoutes ça et au bout d'un moment, tu dis, mais c'est limite forcé pour montrer qu'elle est française.
Elle est française et qu'elle fait pas d'effort.
Et ouais, mais c'est limite trop.
Oui.
Et même un Français qui voudrait faire zéro effort, il parlerait mieux que ça.
Ouais.
Et voilà, et c'est un peu dommage. Mais bon, après, par contre, la voix de George Stobart en anglais, elle est géniale.
Elle est incroyable, les flics en français, en VO, enfin en version anglaise, c'est incroyable aussi.
Et du coup, pareil, sur cette DA, ce choix un petit peu, on va dire, dessin animé, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi plu et marqué à l'époque?
La DA, c'est en fait dessiné.
Ouais, c'est
Ouais,
ça,
c'est
c'est du
ça.
dessin en 2D et...
Et après, c'est mis à une résolution de l'époque, voilà, pixelisée. Ce que faisait pas mal aussi sur Monkey Island, les premiers avec les dessins de
Ouais,
fond.
et les vieux LucasArts sont comme ça aussi.
Exactement, ouais. Mais oui, la DA, elle est géniale. Vraiment, c'est
Ouais, la
super
DA,
joli.
c'est incroyable. Le jeu est toujours aussi beau aujourd'hui, en fait.
Ouais.
Mais ça n'a pas vieilli, ouais, clairement.
C'est ça. Les gens
Non,
du
alors
peuvent
qu'il y a
se
des jeux
ressortir
bien.
aujourd'hui. Ouais.
Ouais, il y a plein de jeux bien plus récents qui ont bien moins bien vieilli que ça. Hein.
Ouais. Bah, alors, notamment les premiers jeux 3D, c'est vite
Oui.
compliqué.
Ah bah oui.
Donc là, on est très bien sur une vraie 2D qui se passe bien et bien dessinée, bien propre. Après, je ne sais pas si il y a des choses, vous, qui vous ont vraiment particulièrement marqué. Les musiques aussi sont quand même, je trouve,
C'est top, ouais.
super
L'ambiance sonore est
marquantes.
incroyable.
Ouais.
Chaque lieu a ses sons. Chaque lieu est. Enfin, aujourd'hui, tu mets un screen ou tu mets une chanson, enfin un son du jeu, ça me remet exactement dans bah, la ville où tu te trouves, enfin le moment du jeu où tu te trouves. Et
Ouais.
tu touches, tu fleurbons le cliché régulièrement en fonction des lieux où tu vas.
Ouais.
Mais justement, ça donne l'ambiance, c'est systématique quoi, quand t'es à Lokern ou quand t'es en Syrie ou autre, à chaque fois, t'es dépaysé et tu sais où tu te trouves, quoi.
C'est vrai.
Y a des jeux où toute l'action se passe à peu près dans le même lieu ou dans la même ville, donc tout finit par se ressembler. Autant là, c'est un jeu où tu voyages énormément et tous les lieux ont leur ambiance visuelle, sonore, leur personnage atypique. Il y a des personnages incroyables tout le long du jeu qui m'ont fait hurler de rire avec des répliques pas possibles. Non, le jeu est incroyable pour ça, parce que l'énigme se tient de bout en bout et t'as toujours envie de découvrir un nouveau lieu avec des nouveaux personnages. Déjà parce que l'histoire va avancer, mais surtout t'as envie d'entendre les lignes de dialogue et tout ce qui va en découler, les trucs improbables. Non, même les personnages qui vont pas servir à grand chose, ils sont intéressants, quoi.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont fait un effort, encore une fois, hein, sur les bois, sur les doublages. Alors des fois, ça reste très cliché, mais je pense que ça fait partie du jeu, tu vois. En fait, l'humour du jeu veut ça également. Donc, dans cette DA, ils ont inclus donc la partie graphique, ils ont inclus l'ambiance sonore, ils ont inclus les doublages. Et vraiment, on a affaire presque à un film qui va se dérouler. Et tu vois, on suit cette aventure. Et je trouve que, comme tu le disais, sur les voyages, moi, j'ai souvenir de... Il y a plein de lieux qu'on ne connaissait pas, quoi. Tu vois, même moi, à 14 ans, que tu as entendu parler ou quoi. Et de là, de les voir vraiment, tu vois, dans un jeu vidéo, avec leurs personnages. Alors, ok, c'est très coloré, très, des fois, édulcoré même, on va dire, plutôt. Mais je trouve ça super intéressant. Et du coup, toi, Yann, pareil, c'est quelque chose, la partie OST qui t'a marqué.
Oui, elle est top. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve que c'est comme Rémi, j'entends les musiques, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Non, la DA, le son, j'ai pas mal critiqué quand même depuis le début, mais c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont incroyables dans ce jeu. Et la DA et le son, et puis l'histoire en général, sont quand même vraiment dans le top du top des point and click. Ça a été difficilement battu. La musique, tu peux trouver des jeux avec encore des musiques un peu comme ça. Ça existe encore. La DA, ça, des point and click comme ça, avec une DA comme ça, ça se fait plus trop, et c'est dommage parce que c'était vraiment incroyable.
Ouais. Et c'est vrai que il y a eu des suites avec plus ou moins de succès malgré tout. Et aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il y aura quand même une nouvelle version.
Oh, un sixième volet, moi je le verrais bien en tout cas.
Je
ne rien là ces dernières années des point and click qui marchent plutôt bien. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu le retour de Monkey Island qui a bien marché.
Ouais.
Je pense que Chevet de Baphomet aura encore sa place.
Non, mais clairement, ils ont leur place totalement. Et surtout qu'ils sont revenus à quelque chose de base, quoi. Les dessins aujourd'hui du 5 sont
Ah ouais, tu compares le 4 et le 5, c'est le jour et la nuit.
Voilà, c'est ça. Donc, s'ils continuent dans ce sens-là à revenir sur des choses qu'on aime, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, clairement.
Ils ont fait, tu sais, ils avaient refait ils ont sorti Beyond the Steel Sky.
Oui.
Yeah. Ouais.
Et donc, c'était une suite aux vieux point
and click. Ouais, de leur deuxième jeu. Et Beneath the Steel Sky, qui était très très bien déjà.
Et voilà, donc tout est possible. Il faut rester optimiste. Moi, j'y crois. J'ai pas d'insider, mais je reste optimiste, connaissant un peu le milieu, les gens, les développeurs. Il y a pas mal de remasters qui sont faits en ce moment, des jeux d'aventure des années 90. Donc, je reste. J'en sais rien. Mais j'ai bon espoir, j'imagine que c'est possible.
En tout cas, la période y est propice, donc moi, en tout cas, j'espère vraiment qu'on en aura un nouveau, parce que je serai le premier à foncer dessus, et je pense que je ne suis pas le seul ici.
Ouais,
mais voilà, un gros plaisir à redécouvrir, en tout cas, cet univers et ces personnages en couleur.
Ouais, moi j'y crois. On verra.
Non, mais t'as raison, hein. J'avais eu la chance d'avoir en interview Thierry Perrault qui avait développé en partie Flashback et qui nous avait annoncé il y a déjà pas mal de temps qu'il y aurait une suite, et en effet, elle arrive. Donc, voilà, ça met des fois du temps, mais en étant patient, il y a des chances que, oui, ce type de jeu de point and click, d'action-aventure de l'époque, des années 90, revient pas mal à la mode. Et je pense que les gens se rendent compte aussi qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des graphismes comme les triple A pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, une belle histoire, une belle aventure, si c'est bien écrit, si le jeu est jouable facilement, ça plaît, quoi.
Oui, et puis il y a le côté nostalgie aussi. Parce que,
il y a la nostalgie.
Il y a clairement un côté nostalgie aussi. Il y a plein de gens qui sont nostalgiques. Enfin, j'ai des amis qui ne s'intéressent pas du tout aux jeux vidéo, mais quand ils ont su qu'il y avait un nouveau Monkey Island, ils ont acheté le premier jour, hein, sans chercher à comprendre.
Ouais.
Donc, voilà.
Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que vous avez des anecdotes sur le jeu, que ça soit à titre perso, sur le jeu en lui-même? Est-ce que il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit quand on parle de Baphomet?
C'est maintenant que je dois dire ma petite anecdote. C'est ça que tu veux. D'accord. Bon, je l'ai dit alors. Donc j'ai fait un point and click et j'ai fait un point and click. Il y a plein de trucs que j'ai fait qui sont cachés. Pour ceux qui ont joué au chevet de Baphomet, il y a plein de petits trucs un peu cachés.
Ouais, des easter eggs.
Ouais, des petits easter eggs. Et en fait, j'ai jamais caché que chevet de Baphomet, c'était mon point and click préféré. Je l'ai toujours dit aux gens qui me demandaient. Voilà. Et un jour, j'ai été pris avec Inspector Waffles pour un event où j'ai été sélectionné. Et j'ai exposé. Et en fait, quand j'ai exposé, c'était cool, c'était à Londres. Et il y avait plein de gens du milieu du point and click. Donc, il y avait par exemple, je sais pas, il y avait Dave Gilbert ou d'autres personnes, plein de développeurs qui ont fait des point and click modernes ou plus anciens. Et donc, c'était super cool, j'ai rencontré plein de gens. Et puis, j'en profitais aussi, il y avait des journalistes qui venaient faire des petites interviews pour leurs journaux. Et puis, je commençais à discuter avec l'une d'entre elles. Et puis, bah, comme d'habitude, on me demande quel est mon point and click préféré. Et comme d'habitude, je dis, je vais être Baphomet. Et elle me dit, tu sais qu'il y a Charles Cécile, donc le créateur de je vais être Baphomet, qui devrait être là... Aujourd'hui, j'ai dit, oh, ok, cool, bah, j'aimerais bien aller lui serrer la main, tu vois, ça peut être sympa. J'ai dit, écoutez, mon jeu, c'est un peu grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, donc elle repart, elle finit son interview, puis une heure et demie plus tard, elle revient et elle me monte du doigt et elle dit, voilà, c'est le gars qui a dit qu'il était fan de Broken Sword. Et juste derrière, il y a Charles Cécile. Il vient me voir, il me fait, bonjour, je peux jouer au jeu? Voilà. Je me suis liquéfié complètement. Il était assis devant mon ordi, testait mon jeu, ma démo. Donc, c'était en 2019. Donc, c'était une démo assez early quand même. Et il a testé le jeu et il m'a fait des super retours. Et il a été très gentil. Et j'ai une photo avec lui. Et yes. Il m'a dit mon courage. Et voilà. Et je crois que vraiment, c'était un peu comme dans un rêve. Quoi. Je me suis dit, imagine, quand j'avais 12 ans, je louais Chevalier de Baphomet. Puis genre, 20 ans plus tard, t'allais voir Charles Cécile qui allait jouer au jeu que t'avais fait.
C'est clair.
Totalement improbable. Et voilà, donc ça a été vraiment... je m'en suis pas remis, je m'en suis toujours pas remis. J'en parle toujours avec émotion. Vraiment un truc de fou dans ma vie de développeur de jeux vidéo.
Clairement.
Et puis il a été surtout, je le redis, mais il a été super cool. Il a été super gentil avec moi et ça, en plus ça aide quoi, quand tu débutes, parce qu'à l'époque, c'était il y a déjà 4 ans, c'était voilà, je débutais, j'avais jamais sorti de jeu encore, de manière commerciale. Et vraiment, d'avoir un retour d'un mec comme ça, avec c'est son expérience qui était super sympa, vraiment, c'était super top. Voilà, donc j'ai rencontré le créateur des Chevaliers de Baphomet et il a joué à mon jeu. Même maintenant, je demande ça. C'est toujours incroyable.
Ouais, c'est toujours
par les choses. Ouais, ouais, carrément. Ouais.
Clairement.
C'est une super anecdote, ça.
Mais c'est cool, des fois, de rencontrer ces légendes. Et c'est vrai que ça arrive rarement, tu vois. J'en ai bien profité. C'était vraiment chouette.
Ouais. Et il a su te donner des conseils, justement, côté dev, ou il est resté triste?
Non, il a testé. Il m'a donné des... Par exemple, il m'a dit un truc qui est super intéressant. Je peux t'en parler. Par exemple, à un moment, tu es dans la maison, toi qui as joué à Inspector Waffle.
Moi, je l'ai fini en live. Hein. Ouais.
Tu rentres dans la maison et puis tu dois monter au premier étage. Tu sais, de la maison où il y a les pièces. Et en fait, aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus, le first floor, le premier étage, donc c'est le rez-de-chaussée, exactement. Ouais. Et il m'a dit, voilà, ça risque de perturber certaines personnes parce qu'ils ne vont pas comprendre si tu dis monter au premier étage. Ça veut dire que est-ce que tu vas être au premier étage ou au rez-de-chaussée, ça va dépendre de l'endroit d'où tu viens, en fait, voilà, comment on le dit. Et donc, j'ai changé ça par aller à l'étage supérieur. Exactement. Ouais. Mais tu vois, c'est genre un petit truc qui m'avait dit qui était super pratique et dont je me suis servi.
Ouais, clairement.
Après, le reste, ou non, il était un peu nul en puzzle pour ne pas te dire.
C'est vrai. Mais moi, je suis le seul, alors. Je suis pas le seul.
Ouais, ouais.
Ah, mais...
C'est souvent, tu sais, mais je vais te dire, quand t'as un truc, tous les développeurs de point and click que je connais, on est tous nuls en puzzle pour trouver les puzzles des autres. C'est une catastrophe. Voilà, je balance, tant pis. Mais elle est les trois quarts. Il y en a vraiment un quart où c'est genre des surdoués. Ils doivent faire, ah oui, ça c'était facile. Toi, t'es là, putain, j'ai pensé pendant une heure et demie à ce puzzle. Comment faire pour...
Et j'ai trouvé la solution sur Internet.
et les gars, ils te trouvent ça en 2 secondes. Non, mais il fait partie, comme moi d'ailleurs, je m'accuse dedans. des développeurs point and click qui sont nuls pour les puzzles, et il était vraiment pas très bon. Et voilà. Donc tu vois, il avait une intelligence pour me dire il faut d'un mec que tu mettes ça pour le premier étage et tout. Donc il était vraiment, il m'a donné des super conseils. Et puis après, je le voyais galérer sur des trucs tout simples. Je me disais, bon, ça me rassure, tu vois.
Ouais, c'est bon, je suis de la même trempe que cet homme, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, pareil. Donc ouais, non, il avait été. C'était super intéressant de le voir jouer, mais en même temps terrifiant. Parce que je me suis dit, il peut me tuer, il peut me détruire en une phrase. Donc voilà, non, mais ça n'a pas été le cas.
Non, mais je me doute que c'est un moment particulier, parce que c'est peut-être moins pour certains. Quand on vous dit des idoles, vous pensez tout de suite à des fois des grands chanteurs, des grands acteurs. Mais malgré tout, le jeu vidéo, c'est un art à part entière. Et de rencontrer quelqu'un qui a marqué une bonne partie de sa jeunesse et qui fait qu'aujourd'hui, toi, Yann, tu devs du JV, c'est fou, quoi. Je pense que c'est aussi fou que pour quelqu'un qui se met à la gratte et qui rencontre, je sais pas, Lenny Kravitz, tu vois. Faut se rendre compte de la chose, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et toi, Rémi, est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes particulières, alors peut-être sur le jeu en lui-même?
En l'occurrence, moi, vu que je les ai découverts un peu plus tard que la grande époque des point and click, on va dire, moi, je les ai fait début 2000.
Ouais.
On va pas se mentir que dans mon entourage, personne faisait de point and click. J'étais vraiment tout seul dessus.
Okay.
Donc, dès que j'étais en galère, j'étais bien en galère tout seul. Autant à l'époque, moi, j'avais l'avantage, Internet était là, il y avait l'état JV. Donc,
oui,
je pouvais essayer de m'en sortir avec ça. Même si voilà, j'essaye toujours de le faire legit sans soluce, parce que sinon bon, il y a des trucs, tu passes un peu à côté de l'intérêt de l'énigme il suffit juste de bien comprendre un truc et après tout coule de source, et il y a certaines fois où en fait la soluce va pas te permettre de comprendre pourquoi elle se résolvait comme ça, mais va juste te permettre de la résoudre.
Ouais.
Ça c'est toujours un peu dommage, dans certains points d'une clique ça te gâche un peu le plaisir, mais ouais, non, c'est des jeux que j'ai fait en solo, on va dire. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le partager avec d'autres, parce que c'était pas la grande fame au début 2000. Les point and click, c'est fini. Hein.
Ouais.
On va pas se mentir, il y en a quasiment plus qui sortent. T'as les suites de... T'avais encore les chevaliers de Baphomet qui existaient, t'avais encore Monkey Island qui existait, t'avais encore quelques point and click qui sortaient par-ci par-là, mais là, on va dire la grande époque était terminée, donc plus vraiment le truc de la hype et les gros jeux qui sortaient, clairement, genre, n'était plus là.
Comment dire ? C'est vrai que au début des années 2000, c'était le néant absolu, il y avait très très peu de gens qui faisaient point and click. Souvent, on parle j'en ai parlé de David Gilbert avec Watch It Eye qui faisait ses jeux dans son coin. Et puis il y a aussi Francisco qui faisait, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom de famille, mince, qui a fait les Ben Jordan, les trucs comme ça, qui étaient aussi, ils n'étaient pas beaucoup, c'était quelques-uns à New York, hein, d'ailleurs, ils étaient un peu tous à New York, à continuer à un peu entretenir ces point and click. Mais par contre, depuis 5-6 ans, je dirais, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a une nouvelle scène indé qui est en train de monter.
Ouais, j'aurais dit 6 ou 7, là.
Ouais, qui est en train de monter, tout est parti un peu de un peu avant Broken Age, je dirais, à cette époque-là où les gros studios se sont dit, tiens, on va quand même essayer de retourner un peu, à essayer de refaire des point and click. Mais en fait, les point and click, ils ont jamais été morts. Il y a eu beaucoup de choses indépendantes. On peut fouiller, on peut trouver sur Internet de gens qui faisaient des trucs en 2015, 2016, qui faisaient des trucs vraiment un peu obscurs, mais ça existait, il y avait des choses très sympas.
Ouais.
Et puis bon, il y avait Manita Design aussi qui faisait des trucs qui ont permis aussi de faire remonter tout ça. Ce que fait Manita Design, c'est incroyable. Et bon, voilà, je parle un peu trop, je me disperse un peu trop, mais donc dans l'idée, c'est que je trouve que depuis 7-8 ans, c'est sur une pente ascendante, et que vraiment, le fait qu'il y ait eu des grosses reprises du genre Monkey Island, pour ne citer que, je trouve que ça montre qu'il y a une scène qui est en train d'être très dynamique, qu'il y a eu des point and click, qui ont extrêmement bien marché. Là, je pense à Hobbs Barrow de cette année là, qui a fait un carton intersidéral. Sans dégâts, d'ailleurs, je parlais de vite fait parce que ça rejoint ce que je dis. Les deux gars de Cloak and Dagger Game qui ont fait donc Hobbs Barrow, ça fait 7-8 ans, 9 ans qu'ils font des point and click. Ils ont fait plein de trucs où il suffit d'aller voir sur Steam, des trucs complètement perchés, des trucs où ils se sont filmés eux-mêmes. Puis ils ont fait du pixel art, puis ils ont fait une sorte de limite des FMV en se filmant. Enfin bon, c'est incroyable, ils ont... Et ça m'a marchait pas. Moi j'aimais bien, hein. je dis pas que j'aimais bien à partir de ce qu'ils ont fait en 2018-2019, je trouvais que ça commençait à être vachement bien. Mais l'audience était très limitée, le public était très limité.
Ouais.
Et puis là, avec Osbarro, ils ont la légitimité et le succès qu'ils méritent parce que leurs jeux sont chouettes. Mais avant, il y avait... Je pense qu'avant, le public était... On va dire le public en général et pas le public de niche n'était pas prêt à revoir des point and click qui pouvaient cartonner, en fait. Et maintenant, voilà, c'est un très bon exemple de leur évolution où ils faisaient des jeux qui étaient invisibles sur Steam et que maintenant, ils font des... Dernier jeu, c'est incroyable. Ouais, moi j'ai été très étonné par leur succès, pas par la qualité du jeu, mais par le fait que tout d'un coup, ça y est, les point and click peuvent être des gros succès. Et ça, c'est très chouette pour le futur.
Non, c'est cool, mais ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est revenu vraiment ces dernières années, et c'est pour ma part, enfin, je vois ça comme la conséquence du succès en fait des jeux indés. Pour le coup, c'est des jeux à moindre coût, on va dire. C'est pas des triple A généralement, c'est des plus petits jeux avec une DA beaucoup plus simple, on va dire. Parce que tu vas pas comparer à une très très grosse licence que je ne nommerai pas, il y en a plein, à un jeu de ce type là. Mais en fait, pendant très longtemps, les gros studios misaient que sur de la grosse licence, et c'était ça qui avait le droit à l'audience, en fait, parce qu'il y avait, on voyait plus que ça. Et mine de rien, ces dernières années, t'as énormément de jeux indés à moindre coût, avec des DA très particulières et tout, qui sont arrivés, qui ont marché. Et je pense que ça a resensibilisé aussi le grand public vers des jeux plus narratifs, en tout cas, et avec une DA très, très particulière, que t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, ça a le mérite de trancher, au moins ça évite ces sempiternels jeux qui se ressemblent tous. Et mine de rien, les point and clicks, c'était exactement ça, en fait, dans les années 90. C'était des jeux avec des DA particulières qui racontaient quelque chose. Et je pense que ça a permis aussi à ces gens-là de se relancer et de refaire des... Ils ont continué à en faire, mais là, ça leur a permis d'avoir une audience et surtout une visibilité qu'ils n'avaient plus.
C'est vrai.
Ces dernières années, tu vois, Monkey Island, même si je pense que même s'ils avaient essayé de le faire il y a 10 ans, je pense qu'ils n'auraient pas eu l'opportunité de le sortir, tu vois.
Ouais,
ils n'auraient pas eu forcément le soutien, alors qu'aujourd'hui, ils l'auraient. Ah, ils l'ont eu, tu vois.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un truc, c'est que pendant 15 ans, là, il y a eu plein de points techniques. J'ai vu dans le chat, il parlait de Deponia, mais aussi, il y a eu plein de choses. Il y a eu vraiment des tas de trucs qui ont été sortis. Runaway, ouais. Voilà, il y a eu vraiment des choses. C'est juste que, même Devolver, ils ont fait, je n'ai pas tous les noms, mais Devolver, ils ont fait plein. Devolver, ça fait des années que c'est chaque fois qu'ils sortent un jeu, tout le monde attend. Ils en ont fait plein des points d'un clic ces dernières années, plein. Mais voilà, il y a eu la période Telltale aussi où c'était...
Ouais. Ils sont presque des points d'un clic.
Ils sont presque, voilà, mais... Ouais. Mais je pense que ça a toujours existé.
Même dans les jeux triple A, ou en tout cas avec des gros graphismes, il y a eu tous les jeux de Quantic Dreams qui sont aussi du jeu narratif, avec des QTE. Alors, ça marche différemment qu'un point and click, mais qui reste basé sur du scénario et qui ont quand même bien fonctionné. Donc, je pense qu'on a réhabitué un petit peu les gens à avoir du narratif, à avoir vraiment un vrai lore, un vrai scénario. Et du coup, on a pu revenir un petit peu à ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir aussi que le JV, il y a des phases où des styles de jeu vont être un petit peu mis à l'écart, et puis ça va revenir malgré tout. Il y a eu aussi plein d'adaptations sur mobile. Rien que les Baphomet, d'ailleurs, a été adapté plein de fois sur mobile. Et moi, j'ai connaissance de plein de potes qui ont acheté les packs, tu vois, sur mobile pour pouvoir y rejouer, quoi. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, ils se sont dit, bon, il y a quand même un marché, on revient là-dessus et on refait du point and click comme on savait faire à l'époque, quoi, clairement.
Bah, c'est ça. Et puis le support tactile, je pense, aide énormément sur ce genre de jeu, en fait. C'est complètement adapté. Hein.
C'est clair.
Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est comme les fringues, c'est comme plein de trucs. C'est que
la mode, c'est cyclique. Ouais, bah oui, bien sûr.
Non, c'est sûr.
Voilà. Il y a un moment où il n'y avait que des FPS. Genre, voilà.
Ouais, des années
tout le monde. Ouais, c'est ça, tout le monde jouait qu'à des FPS. Et puis après, il y a une période où les jeux de simulation, genre Edge of Empire, il y en avait
Voilà.
Et maintenant, des jeux comme Red Alert, où tout le monde voulait faire des Red Alert, ça n'existe plus quasiment. Donc,
t'as eu les Souls-like après qui sont arrivés en France.
Mais exactement.
Tout le monde a sorti le sien. Mais après, ça fait partie du jeu, on le sait. Il y a des effets de mode et il faut aussi en profiter. En ce moment, on a de la chance, le point and click revient. Bah, moi, je vous avoue que je suis ravi. Hein. Moi, je ne vais pas me plaindre parce que j'en ai fait quelques-uns, des trucs récents, des trucs au pif et que j'ai adoré. Hein. Il y a des trucs, je les ai commencés. Bon, je ne rentre pas dans l'ambiance, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais il y en a certains que j'ai adoré, ouais, clairement.
Et après, je ne sais pas si vous aviez d'autres anecdotes ou d'autres choses sur le jeu. Moi, j'ai souvenir aussi, alors je ne sais pas vous, dans les mondes qu'on visite, l'Irlande m'a vraiment beaucoup marqué aussi. Ouais, parce que, alors je ne sais pas pourquoi, parce que, alors il y avait quand même cette proximité, ouais, alors il y a la chèvre, mais les personnages qu'on y rencontre, etc. Moi, j'avais eu la chance d'aller en Angleterre au collège, donc ça tombait, tu vois, à peu près dans ces périodes-là, et de retrouver cette culture, parce qu'on retrouvait quand même la culture anglaise, qui était, je pense, une des cultures les plus proches en termes de géographie, mais assez différente de la nôtre, alors qu'ils étaient proches de chez nous géographiquement. Et on retrouvait vraiment ce côté un peu fou des Anglais, aller dans les pubs, le côté avec les jeux de mots. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont faits, les Anglo-Saxons sont, et notamment les Anglais, en tout cas les personnes du Royaume-Uni, on va dire, de manière plus générale, sont très très fortes là-dessus. Et ouais, il y avait tout ce petit truc vraiment intéressant, je trouvais. Et l'Irlande est pour moi le... Je pense le niveau, entre guillemets, en tout cas l'endroit dans le jeu qui m'a le plus marqué, vraiment. Je ne sais pas, vous, s'il y a des lieux comme ça qui vous ont marqué dans le jeu.
Oh, il y a beaucoup de lieux marquants, mais après, pour certains, tu t'en souviens parce que tu as tellement galéré dedans. Que tu
aussi.
Souviens, genre l'accord du château avec la chèvre, mais... Et t'en as d'autres où t'as tellement rigolé, je pense, moi, à toute la Syrie, qu'il y a des passages incroyables de bêtises dans ce niveau qui est vraiment à mourir de rire. Entre le petit vendeur là qui essaye de t'escroquer, le maître kebabiste avec sa brosse, le conducteur de taxi qui est incroyable, et Dwayne et Pearl qui sont à mourir de rire aussi. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, chaque lieu a son ambiance, a ses personnages qui sont hauts en couleur, et il y a des lieux qui sont vraiment super chouettes visuellement, et d'autres qui sont plus, je vais pas dire plus classiques, mais il y a rien d'extraordinaire dedans. Genre justement la Syrie, c'est une espèce de marché couvert. C'est pas incroyable, et pourtant, moi je pense que c'est l'un des lieux dont je me souviens le mieux, parce que à chaque fois que je le refais, ce jeu, je suis en train de mourir de rire. Juste en sachant ce qui va se passer, je rigole déjà. Et pour ça, c'est vraiment agréable. Enfin, pour ça, c'est un jeu qui, pour moi, ça reste un grand jeu juste pour ce genre de scène, en fait.
Non, mais c'est clair, il y a tellement de... On en revient à ça, mais les dialogues sont quand même assez fous, et les dialogues et le doublage est vraiment, je pense pour moi, le summum de ce qu'on a pu avoir et notamment dans les point and click, mais dans beaucoup de jeux, vraiment, c'est quelque chose de très fort, quoi. C'est quelque chose de très fort. Mais on n'a pas cité, mais il y a quand même la voix du doc de Retour vers le futur qui est présente. Il y a vraiment des doubleurs de qualité.
Parce que... Tu sais qui fait genre moi quand j'étais petit, je pense que peut-être pour toi aussi, je pensais que c'était un Américain qui doublait.
Non.
George Stobart.
Non.
Mais en fait non, je sais.
Ouais,
oui. Mais j'étais persuadé quand j'étais petit que c'était.
Que les Américains parlaient comme ça en plus.
Ouais. Bah bien sûr.
Et j'étais sûr que c'était moi je me suis dit waouh, il a dû apprendre le français et tout. Et en fait non, c'est la voix de Jim Carrey qui le fait.
Clairement.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'après tu fais non, après tu peux plus entendre autre chose et dire ah mais oui mais c'est carrément la même.
Oui non, une fois que tu le sais c'est vraiment particulier mais.
Ouais. Il a doublé plein de d'acteurs américains et plein de jeux vidéo. Donc, clairement. Il y a tellement de choses de qualité. C'est vraiment incroyable. Vraiment, moi, ça m'a marqué. Je pense que c'est un jeu qui m'a marqué à vie, clairement. Et du coup, pour en finir, j'ai regardé un petit peu l'Argus, hein, comme d'habitude, du jeu.
Ouais.
Et j'ai eu plutôt des bonnes surprises parce que je pensais que c'est un jeu qui cotait vraiment. Et du coup, oui, je disais, pour l'Argus, sur la PS1, en gros, on en trouve à 30 euros suivant l'état. J'ai vu même certaines annonces à 10-15 euros, t'arrives à en trouver. Pas forcément en boîte ou quoi. 30 euros, c'est plutôt en boîte. Et sur PC, j'ai trouvé à 10 euros et même une quinzaine d'euros, t'as des big box. Alors, ça peut monter...
Mais c'est pas la belle d'origine.
Non,
ouais,
non
mais la blanche, c'est celle que j'ai, là.
Ouais
la blanche ou alors celle en double pack avec je sais plus quel autre jeu qui est vraiment pas cher.
C'est ça. Ouais, et si tu veux vraiment celle que j'ai, moi, la vraie big box de l'époque, là, on est plutôt à une cinquantaine d'euros.
Ouais.
Mais après, pour un jeu mythique, je trouve que, voilà, quand je vois des Zelda qui sont vendus à des millions d'exemplaires à 150 euros, tu vois, ça me choque plus que de voir un Baphomet à 40-50 euros, quoi.
Les big box sont pas trop chers. Enfin, ça dépend.
Non, ouais, dans l'ensemble, ça reste
correct.
C'est ça.
Et sur ce GBA, il coûte combien?
J'ai pas regardé.
Sur GBA complet, il est à peu près à 50 balles aussi. C'est l'une des éditions la plus chère complète. Avec la version
avec,
PC.
Avec la boîte 50 balles.
Ouais, la carte, c'est pas trop cher, je pense qu'elle doit être à 10, à entre 10 et 20 euros, je pense, mais la boîte,
faudrait...
elle doit être à une cinquantaine.
Faudrait que je la trouve alors.
Ouais, ça fait partie de ces éditions un peu...
bizarre.
Un peu chelou, ouais, et qui est pas forcément la version demandée, donc je pense qu'à l'époque, c'est pas forcément celle qui était le plus vendue, tu vois.
C'est vrai.
Je crois que je l'ai sur PlayStation. Je
ouais, PlayStation, il était bien vendu. Et c'est drôle, enfin, moi, je l'ai sous la main, là, la version PS... Mais à l'arrière, tu as du texte, mais le texte est là pour te vendre la qualité du jeu, mais pas ce que c'est.
Oui, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ouais. que la jaquette, le dos de la boîte, tout est fait pour te dire, voilà, c'est un excellent jeu, achète-le, mais tu ne sauras même pas ce que... Bah, tu sais même pas ce à quoi t'attendre.
Non, les premières phrases, c'est grâce à sa programmation, ses animations et ses techniques de récit sophistiquées, Broken Sword. Et tu vois, il même Broken Sword à l'arrière. Elle vous fait pénétrer au cœur de l'histoire la plus incroyable, la plus bizarre et la plus folle. Ce jeu est un fric d'un. Et en fait, ça te raconte jamais de quoi parle le jeu et comment ça se joue. On s'en fout. Ça, c'est vraiment rigolo parce que ça, c'est vraiment typique de cette époque-là. Aujourd'hui, on te le ferait jamais, ce plan-là.
Merde.
Non, non. Et puis aujourd'hui, il y a eu énormément. Enfin, si vous avez envie de jouer au chevet de Baphomet et que vous êtes pas réfractaire au démat, en version démat, j'imagine que sur Steam ou GOG ou autre, c'est des jeux qui valent pas très cher. Quoi.
Ouais, alors je suis partenaire Google CD, donc je peux le dire. Mais sur Google CD, il est à 1€, quoi. Donc.
Ouais, donc voilà.
Voilà. Si vraiment tu veux découvrir le jeu, t'as pas d'excuses, clairement.
Ouais, exactement. Et t'as eu des rééditions régulières. T'as vu le petit coffret. Des 25 ans de Revolution Software qui était parti à un moment que moi j'avais pris pour ça moi je vous conseille vraiment de faire les 5 et de vous accrocher sur le 3 et surtout le 4 parce que le 5 vaut vraiment le coup derrière par contre.
C'est clair.
Oui, le 5 est mieux que le 3 et 4. Moi,
ouais. Ah ouais, mais largement. Ouais. Malheureusement, il vaut pas les deux premiers. Parce que
ils
ont leurs pattes qui sont rien que graphiquement. Bon, bah voilà.
Bon, graphiquement, c'est le meilleur des 5, hein, le 5. Ça, c'est clair.
Oui, par contre, je suis d'accord. Mais je préfère la DA des deux premiers. Mais,
mais il est très chouette, le 5.
Mais le 5 est vraiment bien. Il a énormément de qualité. Moi, honnêtement, à l'époque, vu que j'avais pris le 4 Day One et j'avais été vachement déçu, le 5, je l'ai un peu boudé. Et je l'ai découvert un peu plus tard, sur le tard, en refaisant les jeux, en fait.
Je l'ai refait sur Switch, du coup, tu sais, comme j'utilise ma Switch en mode portable et tout, c'était trop bien.
tu m'étonnes. Et non, c'est pour ça que moi, je serais vraiment hypé sur une annonce du 6, je serais vraiment partant.
Et bon, on signe tous, hein, je pense.
Ouais, je pense, ouais.
On peut que vous conseiller de faire cette série de jeux qui ont marqué, voilà, je pense, nous trois.
Pour moi.
Et au moins, mais je pense beaucoup de monde, hein, malgré tout, dans le milieu du point and click, je pense que ça reste une référence. Bah, en tout cas, merci encore à vous deux, hein, comme d'habitude.
Merci à toi. C'est quand tu veux.
Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas de raison, hein, vous allez revenir. Ouais. Je ne sais pas encore sur quel jeu, on verra, mais il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous.
Ouais, allez, salut.
Salut.
Ciao, ciao, ciao. Donc, c'est ainsi que se termine cette émission sur... Les Chevaliers de Baphomet. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.